Comme vous le savez, nous sommes entrés dans une nouvelle année biblique. Et nous nous trouvons désormais dans son premier mois. Cette année, le 20 mars de cette année, a marqué à la fois le début du printemps et le premier jour de l'année biblique, le premier Nissan. Plus précisément, cette nouvelle année a commencé le jeudi 19 mars 2026, au coucher du soleil. Et 14 jours plus tard aura lieu la Pâque. La Pâque qui est célébrée chaque année le 14 de Nissan. Ben, lisons ça dans la Bible, on va se reporter à Lévitique 23. Lévitique 23, verset 5. Nous lisons: le premier mois, le 14e jour du mois, nous sommes au premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Verset 6. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain, en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. La date de la Pâque nous est confirmée en plusieurs endroits dans la Bible. On peut la voir également confirmée dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 45. Je lui reporte. 45. Chapitre 45 d'Ézéchiel, verset 21, nous lisons: le 14e jour du premier mois, vous aurez la Pâque. La fête durera 7 jours, la fête des pains sans levain, on mangera des pains sans levain. On va commencer cette étude, ce sermon aujourd'hui, par parler du calendrier biblique. Contrairement à notre calendrier moderne, le calendrier biblique est un calendrier lunisolaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Calendrier lunisolaire. Cela signifie qu'il ne se base pas uniquement sur le soleil, mais qu'il tient compte à la fois de la lune et du soleil. Pourquoi? La lune marque le rythme des mois, et le soleil garantit que les saisons restent à leur place. Comment fonctionne ce calendrier? C'est simple, il fonctionne avec deux repères, comme son nom l'indique. Il fonctionne avec la Lune et il fonctionne avec le Soleil. Le premier repère, c'est donc la Lune. Le deuxième repère, c'est le Soleil. La Lune, on l'utilise pour les mois. Les mois bibliques sont des mois lunaires. Et chaque mois, ça vous le savez aussi, vous devez le savoir, commence avec l'apparition de la nouvelle Lune. Le mois biblique s'étend d'une nouvelle Lune à la suivante. Et un mois biblique dure environ 29 jours et quelques heures. Bon, on va arrondir à 29 jours. Donc, si le mois biblique, le mois lunaire, dure 29 jours, cela signifie qu'il est plus court que le mois solaire. Le calendrier lunisolaire prend un deuxième repère. Il va prendre le soleil. Et le soleil, on va l'utiliser pour les saisons. Le soleil permet de garder les fêtes au bon moment de l'année. Puisque le mois lunaire est plus court que le mois solaire, le mois lunaire est plus court que les mois de notre calendrier, il y a donc un décalage d'environ, à la fin de l'année, il y a un décalage d'environ 11 jours entre l'année lunaire et l'année solaire. Et si aucun ajustement n'était effectué, les fêtes bibliques finiraient par se déplacer progressivement à travers les saisons. Problème? Les Écritures montrent clairement que la Pâque doit être célébrée au printemps, et plus précisément au mois des épis. Exode 13, verset 4. La Pâque doit rester au printemps. Elle ne peut pas, elle ne doit jamais glisser vers l'hiver. Et que pour que les fêtes restent dans la bonne saison, il est donc nécessaire d'adapter le calendrier lunaire au cycle solaire. Comment fait-on? Cet ajustement se fait en ajoutant un mois lunaire supplémentaire certaines années. Et ce mois intercalaire, ce mois qu'on rajoute, on l'appelle Adar 2. Il y a le premier mois d'Adar, on en rajoute un deuxième mois, on l'appelle Adar 2. Et ça se fait dans le calendrier juif traditionnel. Et ce mois est rajouté environ tous les 2 à 3 ans. Et l'ajout de ce 13e mois permet de réaligner l'année biblique avec l'année solaire et de maintenir les fêtes dans la saison voulue. Cette année, on est pour les Juifs, on est en l'année 5786, oui, c'est ça, pour les Juifs. Donc cette année, 5786 pour les Juifs, c'est une année 2026 pour nous, c'est une année normale. C'est une année normale de 12 mois. Aucun mois supplémentaire sera rajouté au calendrier biblique. Par contre, l'année prochaine, 5787, pour l'année, pour le calendrier hébraïque, ce sera une année embolismique. Embolismique, c'est-à-dire que c'est une année où on rajoute un 13e mois. Et 5787, ce sera une année avec 13 mois. Et ce sera 5787, ce sera la 78e année, ce sera l'anniversaire, la 79e année de l'État d'Israël. Et pour ceux qui connaissent les prophéties bibliques, qui connaissent la numérologie, vous savez que 80 est un chiffre important. Et 80 est un, pour beaucoup de juifs, en tout cas orthodoxes, c'est l'année où ils souhaiteraient rétablir le sacrifice au temple. Cette année, quoi qu'il en soit, cette année est une année normale de 12 mois. On a parlé, je voulais vous en parler, on en a parlé, on a parlé du calendrier biblique. Maintenant, parlons de la Pâque. Faut-il dire Pâque au singulier ou Pâque au pluriel? Il convient en effet de distinguer la Pâque au singulier des Pâques au pluriel. La Pâque au singulier, donc la Pâque sans S à la fin, au singulier, est une fête biblique instituée par Dieu et clairement définie dans les Écritures, Lévitique 23, verset 5, et qu'on a vu. Par contre, en revanche, le terme Pâques au pluriel, tel que le mot est couramment employé aujourd'hui, désigne une fête religieuse qui n'est pas mentionnée dans la Bible. Historiquement, la fête de Pâques au pluriel s'est développée dans un contexte de tradition et célébration printanière antérieure au christianisme. Ces célébrations saisonnières marquaient le retour des beaux jours et le renouveau de la nature. En conséquence, des symboles tels que les œufs et les couronnes de fleurs évoquent le printemps, évoquent la vie nouvelle. Comme le lapin. Le lapin est un symbole des Pâques au pluriel en raison de sa forte capacité de reproduction, parce qu'on associe le lapin à la fertilité. Les traditions festives et gourmandes, je dirais, comme les œufs décorés, les lapins ou le chocolat, sont associées aux réjouissances du printemps, mais ne repose sur aucun fondement biblique. Ce qui n'a pas empêché qu'au fil des siècles, certaines églises ont intégré ces traditions à la célébration de la résurrection du Christ. Toutefois, et je me répète, cette intégration ne s'appuie sur aucun fondement biblique. Le Nouveau Testament ne fait aucune mention de lapins ou de symboles liés aux saisons dans le cadre du mémorial institué par Jésus-Christ. Le seul acte que le Christ a explicitement commandé à ses disciples est la prise du pain et du vin, symbole de son corps et de son sang. D'un point de vue biblique, ajouter des symboles d'origine culturelle ou païenne à une célébration instituée par Dieu revient à altérer la simplicité et la pureté de l'ordonnance divine. Et l'Écriture, la parole de Dieu, nous met en garde contre le mélange des pratiques des nations avec le culte rendu au vrai Dieu. La résurrection du Christ est au cœur de la foi chrétienne. Mais les formes culturelles qui y sont ajoutées au fil du temps, qu'on a rajoutées, ne viennent pas de la Bible. Elles sont le fruit de l'histoire des hommes et non d'un commandement de Dieu. La Pâque au singulier, est une fête solennelle instituée par Dieu. Et nous allons célébrer cette fête dans quelques jours. Il nous appartient de nous y préparer avec sérieux et recueillement. Il n'est pas trop tard pour s'examiner Il n'est pas trop tard pour examiner notre cœur et nous disposer spirituellement à cette célébration. Au sujet de la Pâque, la commémoration de la Pâque, je voudrais parler d'un point important. Je voudrais rappeler que la Pâque est réservée aux personnes baptisées. Le baptême. Le baptême correspond à une immersion complète dans l'eau. Être baptisé signifie être littéralement plongé, immergé, submergé. Ce geste symbolise la mort de l'ancienne personne. Et lorsque le baptisé sort de l'eau, cela représente une résurrection à une vie nouvelle. Je donne la référence biblique, c'est Romains 6, versets 3 à 4. Le baptême marque le pardon des péchés passés. Pardon accordé à celui qui se repent. Toutefois, le baptême en lui-même ne paye pas la peine encourue pour le péché. Et la sanction du péché, c'est Romains 6, verset 23, vous la connaissez, c'est la mort. La peine encourue pour nos péchés est payée par le sacrifice de Jésus-Christ. Christ qui a donné sa vie volontairement pour nous, qui a donné sa vie volontairement pour cela. La référence biblique, je vous la donne, je ne vais pas m'y reporter, c'est Jean 10, versets 17 à 18. La Pâque, la commémoration de la Pâque nous rappelle que Christ a accepté d'être livré et d'être mis à mort en paiement de nos fautes. Il a été enseveli, portant sur lui la condamnation qui nous revenait, la mort, afin que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Et mardi soir, nous célébrerons la commémoration du sacrifice de Jésus-Christ par lequel nous avons été réconciliés avec Dieu. Quand vous prendrez la Pâque, pensez à cela. Pensez que vous êtes réconciliés avec Dieu. La Pâque, pour la prendre, il nous faut, avant de pouvoir prendre la Pâque, il faut être baptisé. C'est un impératif. Il faut être baptisé avant de prendre la Pâque, parce que la Pâque, c'est quoi? C'est l'alliance des rachetés. La Pâque est liée à l'alliance. Et lors d'un arrière-Pâque, en Matthieu 26, verset 28, Christ a dit: Ceci est mon sang, le sang de l'alliance. La Pâque, c'est une alliance. La Pâque, ce n'est pas une simple commémoration. Elle est le renouvellement conscient d'une alliance avec Dieu. Une alliance dans laquelle on entre par la repentance sincère. On rentre par la repentance sincère et par le baptême qui s'ensuit. Une alliance scellée par le sang du Christ, une alliance qui doit être vécue dans la fidélité. Participer à la Pâque, c'est se rappeler que nous appartenons désormais à Dieu, non pas par nos mérites, mais par grâce, et que cette alliance nous engage à marcher selon sa volonté. Le baptême marque l'entrée officielle dans le corps du Christ. Et Paul explique en 1 Corinthiens 12, verset 13, 1 Corinthiens 12, verset 13, Paul explique: Nous avons tous été baptisés en un seul corps. La Pâque est un acte réservé aux membres du corps de Christ. Et le baptême est la porte d'entrée dans ce corps. Et la Pâque concerne le sacrifice pour le péché. Mais pour bénéficier pleinement de ce sacrifice, il faut se repentir, être baptisé et recevoir le Saint-Esprit. Sans baptême, il n'y a pas d'engagement formel devant Dieu. La Pâque, soyons-en conscients, n'est pas un acte anodin. Ce n'est pas un acte anodin. La Pâque exige un discernement spirituel profond. Et l'apôtre Paul le rappelle avec force dans 1 Corinthiens 11, verset 28, 1 Corinthiens 11, verset 28, que chacun s'éprouve lui-même. Pourquoi? Parce que participer à la Pâque sans discerner, c'est risquer de passer à côté du sens même du sacrifice du Christ. L'examen de soi Et le discernement du corps du Seigneur suppose une conversion authentique, une conversion scellée par le baptême et le don de l'Esprit. Le baptême est donc un impératif. Le baptême est donc impératif avant la Pâque parce qu'il marque l'entrée dans la nouvelle alliance et il marque également notre intégration par suite au corps du Christ. De plus, le baptême scelle la repentance et permet le discernement spirituel. La Pâque, c'est le mémorial des rachetés. Le baptême est la porte par laquelle nous devons passer pour y avoir part. La Pâque est le mémorial des rachetés. Le baptême en est la porte d'entrée indispensable. La Pâque, bon, je vous ai parlé du baptême, parlons un peu plus de la Pâque. La Pâque est une cérémonie profondément solennelle. On va pas y aller, on va pas se rendre à la Pâque pour manger, ni pour entretenir des conversations légères. Nous y venons pour commémorer le sacrifice de Jésus-Christ qui a payé la peine encourue pour nos péchés. Nous venons à la Pâque, nous y viendrons pour nous associer au corps spirituel du Christ, un corps racheté du péché par son sang. Et lors de la dernière Pâque qu'il célébra avec ses apôtres, notez que tous les disciples étaient présents. Tous. De même, nous devrions tous nous efforcer d'être présents à la cérémonie de la Pâque, dans la mesure, bien entendu, où notre santé le permet. Concernant la Pâque, parlons du moment. Concernant la Pâque, la Bible parle clairement de temps fixé. Ni la date, ni l'heure de la Pâque ne sont laissées à notre libre choix. Dieu en a déterminé le moment précis. Lisons cela dans les Écritures. Reportons-nous à Nombre 9. Nombre, chapitre 9, verset 2, nous lisons. Il dit, les enfants d'Israël célèbrent la Pâque au temps fixé. Il y a un temps qui est fixé. Vous la célébrerez au temps fixé, c'est répété. Le 14e jour de ce mois, entre les deux soirs, vous la célébrerez selon toutes les lois et toutes les ordonnances qui s'y rapportent. La Pâque doit donc être observée au temps fixé par Dieu, selon les instructions qu'il a données. La solennité de cette cérémonie est telle que ceux qui étaient rituellement impurs, ces personnes n'étaient pas autorisées à la célébrer à ce moment-là. On peut lire ça un peu plus loin, toujours chapitre 9 du livre des Nombres, verset 6. Il y eut des hommes qui, se trouvant impurs à cause d'un mort, ne pouvaient pas célébrer la Pâque ce jour-là. Ils se présentèrent le même jour devant Moïse et Aaron. Donc, vous lirez la suite après. Mais la Pâque s'est réservée vraiment aux personnes qui se sont préparées. L'Écriture, la parole de Dieu, mentionne une mise en garde sérieuse pour celui ou pour celle, pour ceux qui étaient purs et non empêchés, qui étaient purs, donc non empêchés d'aller à la Pâque, et qui négligeaient d'observer la Pâque. On peut lire ça encore quelques versets plus loin, verset 13. Toujours chapitre 9 du livre des Nombres, nombre 9, chapitre 13, nous lisons. Si celui qui est pur et qui n'est pas en voyage s'abstient de célébrer la Pâque, celui-là sera retranché de son peuple parce qu'il n'a pas présenté l'offrande de l'Éternel au temps fixé. Voyez encore une fois, on reprend le terme au temps fixé. Cet homme-là portera la peine de son péché. Ce que nous venons de lire, ces paroles soulignent le caractère impératif et solennel de cette fête. La Pâque, ce n'est pas une option. La Pâque, c'est une convocation divine au temps fixé par Dieu. On a parlé du temps, on a parlé du moment fixé, on a parlé de l'importance d'aller à la Pâque. Qu'est-ce que la Pâque véritablement? Voyons maintenant ce qu'est véritablement la Pâque. La Pâque est une commémoration. Une commémoration est une cérémonie destinée à rappeler le souvenir d'une personne ou d'un événement. À rappeler le souvenir d'un événement ou d'une personne. La Pâque, c'est les deux à la fois. Elle est une cérémonie en souvenir d'une personne. Cette personne, c'est Christ, Dieu manifesté en chair qui a donné sa vie pour nos péchés. La Pâque est également une cérémonie en mémoire d'un événement précis. Le sacrifice, la crucifixion de Christ et la mort qui s'en est suivie. Mort par laquelle il a payé la peine encourue pour nos péchés. La Pâque est ainsi l'anniversaire annuel de la mort du Christ pour nous. C'est un mémorial. Un mémorial est un acte destiné à perpétuer le souvenir d'un événement fondateur du passé, afin que cet événement reste vivant dans le présent. Dans la Bible, la mémoire occupe une place essentielle. Véritablement, l'Écriture est traversée par l'appel constant à ne pas oublier les œuvres de Dieu. La mémoire est fondatrice de l'identité. Il n'y a pas de peuple sans mémoire. Il n'y a pas de foi sans mémoire. Il n'y a pas de civilisation sans mémoire. Dans l'Ancien Testament, le verbe se souvenir apparaît plus de 150 fois. L'injonction souviens-toi est répétée à de nombreuses reprises à Israël. Et ce souvenir, ce n'est pas un simple exercice intellectuel. C'est plus que cela. C'est un acte spirituel qui engage la fidélité. La Pâque s'inscrit précisément dans cette dynamique biblique du souvenir. Ce souvenir du sacrifice de Christ afin de vivre en cohérence avec ce sacrifice. Il y a un événement biblique qui annonçait déjà la Pâque. Cet événement, c'est le sacrifice des agneaux en Égypte. Dans la nuit du 14 du premier mois, quand nos ancêtres étaient esclaves en Égypte, l'Éternel frappa l'Égypte. Mais il épargna les maisons dont les linteaux étaient marqués du sang des agneaux immolés. Exode 12, versets 23-24. Le terme que vous pouvez lire dans ces versets, je ne vais pas me reporter, je vous donne la référence, Exode 12, versets 23 et 24, le terme passé par-dessus a donné le nom de Pâques, en anglais Passover, passé au-dessus, en hébreu, pécha, qui signifie littéralement épargner, car une double signification est épargner, épargner en passant par-dessus. Cette Pâque ne fut possible que grâce à l'obéissance d'Israël aux instructions divines. Le sang des agneaux les protégea de la mort physique. Et la mort des enfants égyptiens, la mort des Plutôt, je dirais, la mort des agneaux qui étaient égorgés signifiait annoncer une réalité plus grande. Ces agneaux qui étaient égorgés annonçaient quelque chose encore de plus grand. Ils annonçaient le sacrifice de Jésus-Christ. De même que le sang des agneaux sauva les premiers-nés des enfants d'Israël, le sang du Christ nous sauve de la mort éternelle. Nos ancêtres furent délivrés de la mort physique. Quant à nous, nous sommes délivrés de la condamnation spirituelle. La Pâque nous rappelle deux événements fondamentaux. Le premier élément, c'est celui que nous connaissons bien, le sacrifice des agneaux en Égypte et le sang appliqué sur les linteaux des portes. Ce sang a protégé, ce sang a sauvé de la mort les premiers-nés d'Israël. Mais ce n'était pas une fin en soi, c'était un signe, c'était une image, c'était une annonce. Une annonce de quoi? C'était l'annonce d'un deuxième événement qui devait arriver beaucoup plus tard, la Pâque. Le véritable événement, le définitif, le sacrifice de Jésus-Christ. Son sang, le sang du Christ, ne protège pas d'une mort physique, mais de la mort éternelle. Cette mort du Christ, paye l'amende du péché. Et vous le savez, l'amende du péché, c'est quoi? C'est la mort. On est protégé par le sacrifice du Christ de cette mort. Ainsi, la dernière Pâque, la Pâque. Avant de parler de la dernière Pâque, je voudrais parler de l'ancienne Pâque, la Pâque de l'Ancien Testament. La Pâque de l'Ancien Testament, derrière cette cérémonie, la Pâque que faisaient nos ancêtres, se cachait une réalité beaucoup plus profonde. La Pâque de nos ancêtres, la Pâque de l'Ancien Testament, était un événement, c'était physique. C'était un événement temporaire, symbolique. La deuxième Pâque, la Pâque, le sacrifice du Christ, cet événement, par contre, il est spirituel, il est éternel, il est réel. En offrant sa vie, Christ s'est entièrement remis à son Père. On peut lire ça en Luc 23, verset 46. Luc 23, verset 46, il est écrit: Père, je remets entre mes mains, je remets mon esprit, pardon, je remets mon esprit entre tes mains. Ainsi, la Pâque réelle, la Pâque relie l'ombre à la réalité. Le sang des agneaux annonçait le sang, c'était l'ombre, annonçait le sang rédempteur du Messie, la réalité. Dans les deux événements que la Pâque doit nous rappeler, il y a dans chaque cas une immolation pour sauver la vie. D'abord l'immolation des agneaux en Égypte, puis l'immolation du Christ. La Pâque que nous commémorerons dans quelques jours doit nous rappeler ces deux réalités. Le premier événement nous rappelle que nos ancêtres furent sauvés de la mort physique par le sang des agneaux sacrifiés. Et le second événement nous rappelle que Jésus-Christ a donné sa vie afin de nous sauver de la mort éternelle. Ainsi, l'ombre et la réalité se rejoignent. L'ombre et la réalité se rejoignent. Le sang des agneaux annonçait le sang du Christ. Sans du Christ seul capable d'accorder le salut définitif. Paul, l'apôtre Paul, explique que notre Pâque, explique que Christ, qui est notre Pâque, a été immolé pour nous. On peut, lisons ça dans la Bible, 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 5. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, nous lisons: Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. La Pâque montre notre impuissance à nous prémunir nous-mêmes de la mort qui est la conséquence du péché. Dieu a pris l'initiative d'offrir l'agneau de Dieu, c'est-à-dire son Fils, qui vint pour effacer les péchés du monde. Jean, livre de Jean, Jean 1, verset 29. Jean 1, verset 29, nous lisons: Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit: Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les deux événements, les agneaux sacrifiés en Égypte et la mort du Christ nous montrent que ce n'est que par le sang que nous pouvons être sauvés. Reportons-nous au premier livre de Pierre, 1 Pierre. 1 Pierre 1, verset 18. Nous lisons 1 Pierre, chapitre 1. Premier livre de Pierre, chapitre 1, à partir du verset 18, nous pouvons lire: Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, la Pâque, comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Nos ancêtres furent sauvés par le sang d'agneau. Quant à nous, nous sommes sauvés et innocentés devant Dieu par le sang de son Fils, par le sang du Christ. La Pâque La cérémonie solennelle du mémorial de la Pâque doit produire en nous un profond sentiment d'urgence. Rappelons-nous que cette cérémonie se célèbre à un jour précis, au temps fixé, et à une heure fixée par Dieu. Lors de la première Pâque en Égypte, lorsque l'Éternel passa au-dessus du pays, il s'agissait littéralement d'une question de vie ou de mort. Si le peuple avait tardé à appliquer le sang sur les linteaux des portes, les premiers-nés d'Israël auraient péri. Tout s'est joué en quelques heures. Cela nous montre quoi? Que l'obéissance immédiate était indispensable. La leçon pour nous est claire. Nous devons ressentir le besoin de célébrer la Pâque au temps fixé par Dieu. Nous devons ressentir le besoin de nous rassembler, de nous assembler, car nous sommes une famille. Une famille spirituelle appartenant au corps de Christ. Et une famille prend soin de chacun de ses membres. Une famille se tient unie. Une famille se place sous l'autorité de Dieu. Comprenons, comprenons, comprenez l'usage, l'urgence. Comprenez l'urgence et l'importance de célébrer la Pâque. Il y a une urgence pour deux raisons. Première raison, parce que nos jours sont comptés. Deuxième urgence, deuxième raison, car les événements prophétiques s'accélèrent et s'intensifient. Nous devons nourrir en nous le désir ardent de rencontrer bientôt, face à face, notre Sauveur. Et David, David, comparait ce désir à une très grande soif. Reportez-vous à David, David, je veux dire psaume, psaume 42, un magnifique psaume, psaume 42, verset 1. On va prendre la partie du verset 2, très joli psaume. Comme une biche soupire près des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu, verset 3. Mon âme a soif de Dieu. Avons-nous cette soif? Mon âme a soif, mon âme a soif de toi, mon âme a soif. A soif de Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Est-ce que nous ressentons réellement ce désir? Avons-nous en nous cette aspiration profonde à vivre une relation vivante et sincère avec Dieu le Père et avec notre Sauveur Jésus-Christ? Le temps est court. Le retour du Christ approche. Nous devons nous y préparer, nous devons l'anticiper et en nourrir le désir. Nos ancêtres, Israélites, avaient ardemment désiré sortir d'Égypte. Ils partirent la main levée. Ils partirent remplis d'enthousiasme. Mais cet enthousiasme fut de courte durée. Devant la mer Rouge, cernée par les montagnes et voyant approcher l'armée de Pharaon, ils furent saisis de peur et de découragement. Et chose terrible, ils regrettèrent l'Égypte. Et le découragement est l'un des plus grands dangers qui nous guettent. Ne suivons pas leur exemple. Restons unis. Restons solidaires, fermes dans la foi. Restons profondément attachés au corps du Christ. Le corps du Christ, puisque j'en parle, le corps du Christ, ce n'est pas simplement une structure administrative. Le corps de Christ rassemble tous ceux et toutes celles qui désirent sincèrement faire la volonté de Dieu et de son Fils. C'est ça le corps du Christ. Ce lien ne repose pas sur des formes extérieures, mais sur la puissance de l'Esprit Saint, la force agissante de Dieu en nous. Lorsque nous avons le cœur à obéir à Dieu, lorsque notre désir est sincère, alors nous pouvons avancer avec confiance, nous pouvons avancer avec soin, car Dieu prend soin des siens. Il ne nous laisse pas seuls, il ne nous laissera jamais seuls. Il nous soutient, il nous guide, il nous donne la force de son esprit pour aller de l'avant jour après jour. La Pâque, nous célébrerons mardi soir, nous appelle à sortir du monde pour approfondir notre relation avec Christ. La Pâque, c'est plus qu'un mémorial. La Pâque anticipe une alliance de paix que nous contracterons avec Christ à son retour. On peut lire ça dans la Bible. Ézéchiel. Ézéchiel 34. Ézéchiel 34, verset. Ézéchiel 34, verset 23. Nous lisons. J'établirai sur elle un seul berger qui les fera paître. Mon serviteur David, il les fera paître, il sera leur berger. Dans d'autres versions, il parle de pasteur, mais ça revient au même. Il vient prochainement le jour où l'Église, le corps spirituel du Christ, sera uni et placé sous la direction du Christ. Continuons notre lecture. Verset 24. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu. Et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Je traiterai avec elle une alliance de paix. Oui, le mot alliance revient toujours. Et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. Elles habiteront en sécurité dans le désert et domineront au milieu des forêts. Allons un peu plus loin. Ézéchiel, tournons la page, tournons deux pages. Ézéchiel 37. Verset 26, Ézéchiel 37, verset 26, nous lisons. Je traiterai avec eux une alliance de paix. Tiens, on reparle encore d'alliance, alliance de paix. Il y aura une alliance éternelle avec eux. Et je les établirai, je les multiplierai et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. La saison de la Pâque, les fêtes de printemps, doivent nous rappeler notre besoin absolu d'être sauvés et délivrés. La saison de la Pâque nous enseigne que ce n'est ni par nos œuvres, ni par nos propres forces, ni par nos mérites que nous serons unis à la famille de Dieu. Si au retour du Christ, nous sommes intégrés à la famille divine, ce sera par la grâce du Père et par le sacrifice de son Fils, qui a payé la peine de nos péchés. Le salut est d'abord l'œuvre de Dieu, rappelons-nous de cela. Mais cette grâce, ce salut, appelle une réponse. Dieu appelle, Dieu choisit, Dieu justifie. Et nous, on doit répondre. Nous devons répondre par la foi. Nous devons répondre par la repentance et par l'obéissance. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes, mais nous ne pouvons pas non plus rester passifs. Ce n'est pas nous qui allons nous attribuer une place dans la famille de Dieu. C'est Dieu qui va décider. Et pour cela, il regarde au cœur, il regarde notre fidélité, il regarde nos œuvres, il regarde notre persévérance. La Pâque nous place ainsi devant une double réalité. La souveraineté de Dieu et notre responsabilité de marcher dignement dans l'appel que nous avons reçu. Nous avons un être suprême qui marche devant nous et par qui notre victoire est assurée. Mais il y a une condition, le suivre fidèlement. Nous n'avons pas à nous inquiéter de notre avenir lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu. Non, on n'a pas à s'inquiéter. Aucun effort humain, aussi sincère soit-il, ne peut nous garantir le salut. Seul Dieu sauve. Lui seul accorde le pardon des péchés et la vie éternelle. Mais ça ne signifie pas que nous devrions rester passifs. Nous sommes appelés à lutter contre le péché. Nous sommes appelés à résister à nos penchants charnels. Nous sommes appelés à persévérer dans l'obéissance. Nous avons accompli notre part avec fidélité. On doit accomplir notre part et Dieu accomplira la sienne. Dieu accomplira la sienne avec puissance. Élie, si je parle d'Élie, c'est le premier livre des rois. Alors, Élie, un roi, Chronique des Rois, allons verset 17. Élie le prophète, Élie fit sa part et Dieu fit la sienne. On peut lire ça dans la Bible. Verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Verset 9. Dieu lui dit, lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Dieu n'a jamais abandonné Élie. Là, dans ce verset que nous venons de lire, il lui dit de se lever. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il lui demande de faire sa part. Dieu n'abandonna pas non plus la femme qui vint en aide à Élie. Vous pourrez lire la suite de l'histoire, de toute façon vous la connaissez. Dire que Dieu ne nous abandonnera jamais ne veut pas dire que nous n'aurons pas d'épreuves. Dire, je me répète, sois bien clair, Dieu, dire que Dieu ne nous abandonnera jamais ne veut pas dire que nous n'aurons jamais d'épreuves. La vie humaine pourrait se définir comme un test qui permet à Dieu de voir si ceux et celles que Dieu appelle son Église seront dignes un jour de faire partie de la famille divine. Nous sommes présentement testés, éprouvés. L'obéissance à Dieu ne doit pas être partielle. Elle doit être totale. Nous devons suivre Christ et agir comme il a agi. Et comment Christ agissait? Christ s'en référait toujours à son Père. Nous devons faire de même. Voyons dans la Bible comment Dieu agissait. Comment on peut se référer à Jean, Jean 5. Jean 5, verset 19. Jean 5, verset 19, nous lisons. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Se laisser conduire par Dieu est essentiel, essentiel, pour quiconque se dit enfant de Dieu. On ne devient pas enfant de Dieu par une simple déclaration personnelle, ni parce qu'on se persuade soi-même de l'être. Ce qui atteste véritablement notre appartenance à Christ, c'est une vie dirigée non par les hommes, ni par nos propres impulsions, mais une vie dirigée par le Saint-Esprit de Dieu. Ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont enfants de Dieu. Reportons-nous à Romains. Romains 8, verset 14. Nous lisons. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mardi soir, à la Pâque, nous devrons nous rappeler que Christ est notre Sauveur, qu'il est notre Seigneur et qu'il conduit l'Église. Ce que Colossiens chapitre 1, Colossiens chapitre 1 nous rappelle, allons à Colossiens chapitre 1, verset 17. Lisons chapitre 1, verset 17. Nous lisons. Il est avant toute chose, il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui, Toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Et les versets suivants apportent une compréhension complémentaire à la cérémonie de la Pâque. Verset 19. Car Dieu a voulu faire habiter notre toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même. Pour lui, il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tout ce qui est sur la terre. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix avec lui par le sang de sa croix. La fin du verset 20, que nous venons de lire, nous dit que Christ a offert sa vie en sacrifice afin de réconcilier toutes choses avec lui-même. Christ, en donnant sa vie pour nos péchés, vint apporter la paix Il va apporter la paix que le monde n'a jamais connue depuis le péché originel. Christ est le seul être spirituel qui pouvait offrir sa vie pour le rachat de nos péchés. Mardi soir, lors de la cérémonie de la Pâque, prenons le temps de méditer profondément sur ces vérités. Rendons grâce à Dieu et remercions notre Sauveur pour l'œuvre qu'il a accomplie pour nous. Vous savez, nous n'aurons pas assez de l'éternité pour louer et remercier Christ pour son sacrifice. Aucun mot humain ne peut exprimer pleinement la reconnaissance que nous devrions éprouver envers Dieu le Père et envers son Fils. Si nous y réfléchissons bien, Dieu n'était pas obligé d'envoyer son Fils pour racheter la peine encourue par nos péchés. Il n'y avait aucune obligation. Il aurait pu nous abandonner à notre sort, se détourner de l'humanité et établir un autre dessein. Il aurait pu, mais il ne l'a pas fait. Alors que nos cœurs débordent de reconnaissance. Une reconnaissance profonde, sincère et durable. Une reconnaissance qui ne s'éteindra jamais, même dans l'éternité. La Pâque est une cérémonie solennelle. C'est pourquoi on ne s'y présente pas sans préparation ni réflexion préalable. Nous sommes appelés à nous examiner, à nous éprouver nous-mêmes, d'autant plus que l'Écriture nous rappelle que le cœur est tortueux par-dessus tout. Jérémie, chapitre 17, verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Venir à la Pâque sans préparation spirituelle est dangereux. Cela comporte des risques réels. Et l'apôtre Paul nous met en garde. Il nous met en garde avec une gravité sûre, certaine. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11. Verset 28. Nous lisons: Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Le manque de discernement. L'absence d'examen personnel ou une attitude légère face au sacrifice du Christ peuvent entraîner des conséquences spirituelles sérieuses. Et Paul continue, verset 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Ces paroles montrent que Dieu prend cette cérémonie de la Pâque très au sérieux. Alors, préparons-nous avec crainte respectueuse, avec sincérité et avec reconnaissance. Les semaines, maintenant, c'est plus des semaines, c'est quelques jours. Les jours qui restent. Les jours qui précèdent la Pâque sont un temps privilégié pour faire le bilan spirituel de l'année écoulée et nous demander sincèrement si nous avons marché selon les enseignements de Dieu. Reportez-vous au livre de Jacques. Jacques, chapitre 1. Jacques 1, verset 22, nous lisons. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole, il ne la met pas en pratique. Il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Le grand danger qui nous guette tous, Le grand danger, c'est de se laisser absorber par la vie et se laisser attraper, se laisser rattraper par des querelles inutiles. Reportez-vous à 1 Timothée, 1 Timothée 6. Timothée, chapitre 6, verset 20, nous lisons: Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science. Dieu veut que nous comprenions pleinement le sens et les buts de la Pâque. Pour cela, souvenons-nous sans cesse du dessein qu'il a formé pour nous. Le plan de Dieu, son dessein, et nous intégrer dans sa famille. Cette intégration de la famille divine constitue l'aboutissement ultime de la Pâque. La Pâque ne se limite pas au souvenir du sacrifice du Christ. Elle nous dirige vers notre destinée. Notre destinée, c'est devenir enfant de Dieu, pleinement uni à lui dans son royaume. Ça, c'est notre destinée. Mais il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec cela. Il y a un être spirituel qui souhaite nous voir échouer. Cet être, c'est Satan. Et pour atteindre son objectif, Satan utilise trois moyens puissants. Vous les connaissez. La Bible les identifie clairement. Reportons-nous à 1 Jean. 1 Jean 2. 1 Jean 2. 1 Jean 2, verset 16. 1 Jean 2, verset 16. Nous lisons: Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. La convoitise de la chair et celle des yeux, c'est relativement facile à comprendre. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, nous attire vers des désirs désordonnés et l'attachement aux choses visibles. L'orgueil, en revanche, c'est plus difficile, c'est plus subtil. L'orgueil, c'est sans doute l'un des dangers les plus redoutables, car il s'oppose directement à l'humilité que Dieu cherche en nous. Là où Dieu appelle à la dépendance et à la soumission, l'orgueil nous pousse à l'autosuffisance. Face à ces trois outils destructeurs, il nous propose aussi trois principes. Non pour nous perdre comme Satan le voudrait, mais Dieu nous propose trois autres principes pour nous édifier. Lisons dans la Bible ces trois principes et pour cela reportons-nous au prophète Michée. Michée. Chapitre 6, Michée, chapitre 6, verset 8, nous lisons: On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. En miroir aux trois instruments du mal, Dieu offre trois fondements spirituels: pratiquer la justice, aimer la miséricorde, marcher humblement avec Dieu. Trois qualités essentielles avec lesquelles nous terminerons cette étude de préparation à la cérémonie de la Pâque. Trois caractéristiques de la vraie religion. Trois attitudes qui nous préparent au royaume de Dieu. La justice, la miséricorde et l'humilité. Commençons par la justice. Que signifie ce mot? Que signifie agir avec justice? Agir avec justice est mettre en pratique les enseignements que nous lisons et entendons dans la Bible. Il ne suffit pas de connaître la vérité. Non, ça ne suffit pas. Il ne suffit pas d'écouter des sermons. Non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas également de lire la Bible. Il faut, en plus de tout cela, il faut pratiquer, il faut vivre ce que nous apprenons. Jacques nous le rappelle avec force Jacques nous rappelle que ne pas mettre la parole de Dieu en pratique, c'est se tromper soi-même. Celui qui écoute sans agir est comme un homme qui se regarde dans un miroir et oublie aussitôt ce qu'il a vu, l'avons lu. En revanche, celui qui met la parole en action trouve la bénédiction. Le verset 27 du premier chapitre de Jacques 1, Jacques 1, verset 27, nous donne une définition claire de la vraie religion. Reportons-nous à Jacques 1, chapitre 1, verset 27. 1, verset 27. Nous avons lu précédemment les versets 22 à 25. Maintenant, lisons le verset 27. Les réunions pures et sans tache devant Dieu notre Père consistent à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et se préserver des souillures du monde. La vraie religion nous est donnée. La vraie religion, c'est visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et se préserver des souillures du monde. Le verset 27 que nous venons de lire résume deux dimensions essentielles de la vraie foi. La première dimension de la vraie foi, la première dimension d'une foi active et compatissante, c'est prendre soin des plus vulnérables. La deuxième dimension d'une vie séparée du péché consiste à ne pas se laisser modeler par les valeurs du monde. La vraie religion est donc à la fois engagement envers les autres et fidélité envers Dieu. La vraie religion est action. Elle consiste à manifester concrètement l'amour et la compassion, notamment envers ceux qui ne peuvent rien nous rendre en retour. Ça ne nous donne pas de reconnaissance humaine, mais c'est ce que Dieu appelle une religion pure et sans tache. Et en même temps, Jacques nous invite à nous préserver des souillures du monde. Cela signifie quoi? Cela signifie ne pas adopter les valeurs dominantes de la société lorsque celles-ci s'éloignent des principes bibliques. Chercher à plaire au monde comporte le risque de perdre le discernement spirituel. Une année s'est écoulée depuis la dernière Pâque. Posons-nous donc cette question. Au cours de ces 12 derniers mois, avons-nous davantage cherché à nous conformer au monde ou à faire la volonté de Dieu? Avant de prendre la Pâque cette année, dans quelques jours, examinons-nous avec sincérité et humilité. Dieu recherche en nous une foi vivante, une foi agissante, une foi ancrée dans la conviction que Christ est à la droite du Père. Car le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est 1 Jean chapitre 2 verset 17. Mardi soir, nous prendrons la Pâque. Un acte, une cérémonie, nous allons faire quelque chose que le monde ne comprend pas et ne pratique pas. Mais sortir du monde pour une soirée, ce que nous allons faire dans quelques jours, ne suffira pas. La véritable question est, voulons-nous sortir du monde pour toute l'année à venir et pas uniquement pour une soirée? On a vu ce qu'est la justice. Voyons maintenant ce qu'est la miséricorde et surtout ce que signifie aimer la miséricorde. La miséricorde, c'est quoi? La miséricorde, c'est la compassion envers notre prochain. La miséricorde, c'est le pardon. La miséricorde est une des expressions les plus élevées de l'amour. De la même manière que Dieu nous a pardonné en payant la peine de nos péchés, ce que nous symboliserons mardi soir dans la cérémonie de la Pâque, nous sommes appelés à pardonner à notre tour. Pardonner est une démonstration puissante d'amour. Lorsque Dieu nous a pardonnés, il a restauré notre relation avec lui. De même, lorsque nous pardonnons, nous œuvrons la restauration des relations. Pardonner signifie renoncer à garder rancune. Pardonner, cela implique de ne pas entretenir l'offense, de ne plus en parler, de ne pas la ressasser. C'est un choix spirituel, une décision volontaire d'imiter Dieu. Aimer la miséricorde, c'est vouloir pardonner, non par contrainte, mais parce que notre cœur a été transformé. À l'approche de la Pâque, d'ici quelques jours, posons-nous encore une question. Mettons-nous réellement en pratique la justice de Dieu et faisons-nous preuve de miséricorde envers notre prochain. Voyez maintenant l'humilité. Voyez maintenant la troisième qualité mentionnée par le prophète Michée, l'humilité. L'humilité nous est expressément commandée. On peut lire ça dans 1 Pierre. Chapitre 5. 1 Pierre, chapitre 5, verset 6, nous lisons: Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. La Bible présente l'humilité comme la douceur, la modestie, le renoncement. Le renoncement à quoi? À soi. C'est ça l'humilité, c'est la douceur, c'est renoncer à soi. L'humilité, c'est l'exact opposé de l'orgueil. L'orgueil se concentre sur le moi, moi. L'orgueil se concentre sur ce que j'ai accompli, ce que je vais accomplir. L'orgueil se concentre sur mes projets, sur mes objectifs. L'orgueil s'exprime souvent par deux mots. Deux mots. Les mots je et le mot moi. Je et moi. L'humilité, au contraire, se tourne vers Dieu. L'humilité reconnaît la grandeur de Dieu, sa puissance. L'humilité reconnaît que nous dépendons de Dieu. L'humilité s'exprime par la foi, la miséricorde et la fidélité. L'apôtre Paul, on va se reporter l'apôtre Paul 1 Corinthiens 15, verset 9, ce sera mon dernier verset. L'apôtre Paul est un exemple frappant d'humilité. L'apôtre Paul, malgré l'ampleur de son ministère et l'influence de ses écrits, auxquels on attribue quand même 14 épîtres, 14 épîtres ce n'est pas rien, cet homme a écrit 14 épîtres. Et il se considérait comme le moindre des apôtres. C'est ce qu'on peut lire en 1 Corinthiens 15, verset 9. Plus il servait Dieu, plus il mesurait sa petitesse. Il mesurait sa petitesse. L'humilité véritable ne diminue pas l'engagement, elle l'approfondit. Elle ne cherche pas à se mettre en avant. L'humilité cherche à glorifier Dieu. Nous avons vu les trois exigences que Dieu nous présente par la bouche du prophète Michée. Pratiquer la justice, aimer la miséricorde et marcher humblement avec notre Dieu. Ces trois qualités répondent aux trois dangers que Satan utilise pour nous, qu'il utilise pour nous, pour nous égarer. Je les répète, c'est les trois armes de Satan: convoitise de la chair, dureté du cœur et l'orgueil. À cela, la convoitise de la chair, Dieu oppose quoi? Oppose la justice. La dureté du cœur, Dieu oppose la miséricorde. Et à l'orgueil, Dieu oppose l'humilité. À l'approche de la Pâque, ces trois vertus doivent devenir notre examen spirituel. Avons-nous mis la parole en pratique ces 12 derniers mois? Avons-nous pardonné comme Dieu nous a pardonné? Marchons-nous humblement sous la main de Dieu? La Bible nous rappelle que nous sommes sauvés, ni par nos œuvres, ni par nos mérites, mais par le sacrifice du Christ. Pourtant, ce sacrifice nous appelle à une transformation réelle. Ce sacrifice nous appelle à pratiquer la justice, à aimer la miséricorde et à marcher humblement avec Dieu. Voilà le chemin de ceux et celles qui se préparent au royaume. Mardi soir, lorsque nous prendrons la Pâque, faisons-le avec un cœur examiné, un esprit repentant, une volonté renouvelée de vivre selon ces trois principes. Justice, miséricorde, humilité. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent sabbat et une bonne préparation pour les fêtes de printemps.